Bon, ben merci encore une fois d'être là, comme tous les mois. On vous rassure, on va peut-être s'arrêter à un moment donné. Mais
pas le mois prochain.
Pas le mois prochain. Donc, vous avez suivi évidemment la controverse autour des chiffres du chômage. Tout ce qui a été autour, tout le débat qu'il y a eu autour. L'objectif du collectif, ça a toujours été, comme son nom l'indique, les autres chiffres du chômage, donc de sortir de ce fétichisme du chiffre, hein, comme on l'avait expliqué dans la présentation de l'initiative, parce que, tout simplement, il y a plein d'autres réalités, au moins aussi importantes, à mettre dans le débat si on veut apporter des solutions pertinentes à la question de l'emploi. Et donc aujourd'hui, sortir par le haut de cette question, on met en débat un certain nombre de propositions qui s'appuient sur les résolutions du Bureau international du travail, donc qui ont été prises il y a près de 10 ans maintenant, concernant un certain nombre de concepts, comme, on connaît tous le chômage de vulnérabilité, mais au-delà de ça, il y a le concept de sous-emploi et aussi le concept qui, de plus en plus, gagne en pertinence, qui est celui de l'emploi inadéquat. Donc voilà, c'est autour de ces trois questions, encore une fois, en reprenant simplement les résolutions du BIT, qu'on a essayé de mettre un certain nombre de chiffres, d'indicateurs derrière ces réalités pour poser de façon complète la question du chômage, du sous-emploi et de la précarité aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Thomas. Et évidemment, comme d'habitude, camarades des syndicats qui ont sans doute un mot à dire aujourd'hui compte tenu de l'initiative qu'ils ont prise. Vous savez tous qu'il y a une manifestation des agents de la NPE aujourd'hui. Et puis, évidemment, les associations de chômeurs compléteront ce qu'on va vous présenter.
Oui, donc... En 86, l'INSEE avait publié par la voix de son directeur général d'alors, Edmond Malinvaux, un rapport sur les statistiques du chômage qui préconisait, ça fait plus de 20 ans, donc l'élaboration d'une batterie d'indicateurs pour rendre compte de la diversité des situations de chômage et de sous-emploi. En 97, le commissaire au plan de l'époque, Henri Guénaud, publié un rapport sur le chômage, le cas français, où il s'essayait à mettre en œuvre un peu la recommandation du rapport Malinvaux, c'est-à-dire à quantifier la diversité des situations de chômage, de privation d'emploi et de sous-emploi à partir des statistiques disponibles. Mais on peut dire que, hormis ces recommandations et ces initiatives qui sont restées sans lendemain, le système statistique public continue imperturbablement à publier, pour l'essentiel, un taux de chômage autour duquel se focalise la discussion, et on n'a pas de batterie, on n'a pas de système d'indicateurs réguliers et cohérents qui permettent d'évaluer la situation, l'évolution de la situation du marché du travail de façon conjoncturelle et annuelle. Donc il nous semble que cette situation n'est plus soutenable. Le système d'indicateurs officiels est discrédité aujourd'hui avec la controverse autour du chômage BIT et de l'enquête emploi de l'INSEE. Et donc nous proposons, alors le collectif a travaillé avec les statisticiens qui sont membres du collectif sur la base des données de l'enquête emploi, des enquêtes emploi d'INSEE depuis 1990, donc de 90 à 2005, puisque nous n'avons pas évidemment accès à l'enquête emploi de 2006, malheureusement. Nous avons travaillé sur la base de ces données pour proposer au débat public des indicateurs de chômage et surtout de sous-emploi et d'emploi inadéquat au sens du BIT. Alors, je vais expliquer rapidement ce que c'est que l'emploi inadéquat au sens du BIT. Qui montre, alors le résultat principal de ce travail, c'est qu'aujourd'hui 11,4 millions de personnes se trouvent dans une situation d'emploi inadéquate au sens du BIT, donc je vais tout de suite expliquer ce que ça veut dire. Et si on ajoute à ça le nombre de chômeurs au sens du BIT, c'est-à-dire 2,6 millions, on aboutit à un total de 14 millions de personnes, c'est-à-dire 51% de la population active, qui sont soit au chômage, soit dans des situations d'emploi inadéquates. Donc on voit que c'est une dimension considérable, hein, par rapport au simple chiffre du chômage qui, lui, tourne aux alentours de 10% depuis une vingtaine d'années. Donc le message important qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est qu'au-delà des fluctuations conjoncturelles du taux de chômage, qui, je le répète, depuis une vingtaine d'années aussi autour de 10%, hein, entre 8 et 12%, au-delà de ces fluctuations, on a assisté à une augmentation continue du nombre et du taux, la proportion, disons, d'emplois inadéquats par rapport à la population active. Alors, qu'est-ce que c'est que l'emploi inadéquat au sens du BIT ? On s'est basé donc sur la résolution de la 16e conférence internationale des statisticiens du travail, tenue en 1998 à Genève. Cette conférence internationale des statisticiens du travail a défini des concepts, notamment le concept de sous-emploi et le concept d'emploi inadéquat. Et nous nous sommes basés pour l'essentiel sur cette résolution, en y apportant des interprétations, parce que c'est une résolution qui reste assez vague dans l'ensemble de détails. Mais nous sommes basés sur les concepts définis par cette résolution pour quantifier les indicateurs d'emploi inadéquat et sous-emploi que nous proposons aujourd'hui au débat. Alors, l'emploi inadéquat se décompose en 4 sous-catégories. Les bas salaires, les contrats précaires, le sous-emploi et les emplois insoutenables. Alors je reprends bon par point. Les bas salaires, c'est... Alors il y a une définition statistique du bas salaire, qui est une définition d'ailleurs européenne. Les bas salaires, ce sont les salaires mensuels inférieurs aux 2/3 du salaire médian. Les contrats précaires, bon, ben, ce sont les contrats CDD, intérim, stage, emploi aidé, durée limitée, qui ne permet pas de prévoir, de construire un avenir, d'emprunter, d'accéder au logement, etc. Alors le sous-emploi, nous utilisons une notion, nous avons adopté une notion de sous-emploi un peu différente de celle qu'utilise l'INSEE. Alors l'INSEE s'est limité pour l'instant à calculer le sous-emploi lié à la durée du travail, ce qu'on appelle le sous-emploi lié à la durée du travail, ce que le BIT appelle le sous-emploi lié à la durée du travail, qui est en fait les personnes à temps partiel qui souhaitent travailler davantage. Alors cette catégorie de sous-emploi nous semble intéressante mais très restrictive, parce qu'en fait le BIT appelle sous-emploi dans cette résolution, hein, un concept plus large de sous-emploi, et notamment inclut les emplois où les qualifications et les capacités des personnes sont sous-employées. Donc nous avons utilisé un concept de sous-emploi qui est les emplois qui ne permettent pas l'utilisation des qualifications et des capacités des personnes. Et quatrième catégorie qui compose l'emploi inadéquat, c'est ce qu'on appelle les emplois insoutenables, c'est-à-dire les emplois qui sont dangereux pour la santé, qui ne préservent pas la santé de ceux qui les occupent. Voilà. Et donc, l'ensemble des personnes qui sont soit qui ont un bas salaire, soit qui sont en contrat précaire, soit qui ont un emploi, soit qui sont sous emploi, soit qui ont un emploi insoutenable, un emploi qui ne préserve pas la santé, l'ensemble de ces personnes, ça représente 11,4 millions de personnes aujourd'hui, en 2005. Alors, si je reprends maintenant catégorie par catégorie, donc les bas salaires. Les bas salaires, ça représente 3,8 millions de salariés, 14% de la population active. Donc, voilà, le salaire médian en 2005, c'était 1 240 euros. 2/3 du salaire médian, ça fait 818 euros. Hein, donc on a 3,8 millions de salariés qui gagnent moins de 818 euros par mois. C'est-à-dire, ça représente 86% du SMIC net. Hein, 86% du SMIC, c'est quand même pas beaucoup. On peut dire que c'est vraiment un bas salaire. Alors là... La grande majorité de ces personnes à bas salaire sont des gens à temps partiel. Mais surtout des femmes, bien sûr, parce qu'on sait que les femmes représentent plus de 80% des salariés à temps partiel. Cette catégorie des travailleurs à bas salaire a augmenté, enfin s'est développé nettement dans les années 90 parce que sous l'impact du développement du temps partiel, qui a été favorisé par des exonérations de cotisations sociales dans les années 90. Mais les bas salaires concernent aussi les salariés à temps plein. Curieusement, ça pourrait paraître bizarre, pourquoi est-ce qu'il y a des salariés à temps plein qui gagnent moins de 86% du SMIC net mensuel ? Bien parce que ce sont des salariés qui sont rémunérés pas pour la totalité du mois. C'est-à-dire des gens qui enchaînent des contrats, mais qui se trouvent au chômage pendant une période du mois. Donc ils travaillent à temps plein pendant les jours où ils travaillent, mais ils ne travaillent pas de façon permanente. Et donc la précarité, le développement des emplois précaires contribue au développement des bas salaires. Deuxième catégorie, donc deuxième sous-catégorie qui constitue le concept d'emploi inadéquat, c'est donc les contrats précaires. Alors là, les chiffres sont bien connus, étaient connus avant qu'on les publie là. C'est 2,7 millions de salariés, soit 10% de la population active, sont en CDD, en intérim ou sur un contrat saisonnier, un stage ou un emploi aidé. Donc là, c'est clairement quelque chose qui a fortement augmenté au cours des années 90, qui continue à augmenter à un rythme ralenti aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est surtout l'intérim qui se développe. La précarité, on le sait, est concentrée sur certaines catégories de salariés. La majorité des précaires de ces 2,7 millions sont des femmes, et la moitié ont entre 15 et 29 ans. Alors, on sait qu'un CDD n'est pas une situation nécessairement définitive. On sait qu'entre un tiers et la moitié des CDD débouchent sur un CDI. On sait aussi que les intérimaires ne sont pas tous intérimaires malgré eux. Il y a une minorité estimée à peu près 20% des intérimaires qui le font par choix. Néanmoins, il nous a semblé prendre les contrats précaires comme indicateur d'emploi inadéquat était tout à fait justifié. D'ailleurs, c'est l'OIT lui-même qui le suggère, parce que l'extension de ce type de contrat à durée limitée est un signe non ambigu de la précarisation du marché du travail, de l'insécurité sociale. Et la preuve la plus claire en a été la réaction de la jeunesse face au projet de CPE l'année dernière, qui montrait bien le sens qui attribuait socialement, qui est attribué par la grande majorité des gens à ce type de contrat. Alors, troisième composante de l'emploi inadéquat, le sous-emploi. Donc là, on a estimé pour 2005 à 5 millions de personnes, c'est-à-dire 18% de la population active, des personnes que nous avons qualifiées en sous-emploi de leur qualification ou de leur capacité. Alors, qu'est-ce que c'est que ces... Quels sont les critères qu'on a utilisés ? D'abord, ce sont des salariés, donc ce sont des gens qui ont un emploi, mais qui sont inscrits à la NPE. Ou bien qui déclarent dans l'enquête emploi qu'ils recherchent un autre emploi. Ils ont un emploi, mais ils recherchent un autre emploi. Donc ça, c'est un premier critère, c'est des gens qui cherchent un autre emploi, ils sont inscrits à la NPE ou ils déclarent rechercher un autre emploi. Et le deuxième critère qu'on a utilisé, c'est les gens qui sont déclassés par rapport à leur diplôme. Donc des gens qui occupent un emploi, par exemple, d'ouvrier alors qu'ils ont un diplôme supérieur au bac, ou des gens qui occupent un emploi d'ouvrier, d'employé ou de profession intermédiaire alors qu'ils ont un diplôme universitaire de second ou troisième cycle. Cette catégorie, alors, donc la première catégorie, les salariés inscrits à l'NPE ou qui recherchent un autre emploi, c'est 3 millions de personnes. Et on sait que c'est une proportion qui a augmenté très fortement, c'est ce qu'on appelle les activités réduites parmi les demandeurs d'emploi. Les salariés déclassés, ça représente 2,6 millions de salariés. Alors 3 plus 2,6, ça ne fait pas 5, vous allez me dire, eh bien c'est parce que ça fait... J'ai dit qu'il y avait 5 millions sous emploi. Je vous ai dit 3 millions inscrits à l'NPE ou en recherche d'emploi et 2,6 millions qui occupent un emploi sous-qualifié. Eh bien, c'est parce qu'il y en a qui sont dans les deux situations. Hein, et on peut, c'est des chiffres qu'il faut, enfin, il faut faire attention pour les cumuler. Il faut éviter les doubles comptes. Hein, donc le 5 millions que j'évoque, c'est des gens qui sont soit inscrits à l'NPE en recherche d'emploi, soit déclassés. Et donc la dernière catégorie, la dernière composante de l'emploi inadéquat, c'est ce que nous avons appelé les situations de travail insoutenables. 4,3 millions de personnes, 16% de la population active, donc ce sont des gens qui ont un emploi, salariés. Et alors, dans l'enquête emploi, malheureusement, emploi insoutenable, je répète, c'est emploi dangereux pour la santé. Dans l'enquête emploi, malheureusement, on dispose de très peu d'indicateurs sur les conditions de travail. En réalité, on a des indicateurs sur la durée du travail. Donc on était obligé de se limiter à ça. On a utilisé le critère « travailler régulièrement la nuit ». Donc ça concerne 1,8 million de salariés. Ou travailler plus de 44 heures par semaine. Et ça concerne 3 millions de salariés. Là encore, il y en a qui sont à la fois en travail de nuit et travaillent plus de 44 heures par semaine. Donc au total, ça fait 4,3 millions. Il nous manque beaucoup de gens dans cette catégorie parce qu'on n'a pas les indicateurs qui permettent, dans l'enquête emploi, qui permettent de les évaluer. D'autres enquêtes, des enquêtes du ministère du Travail permettraient, mais ce ne sont pas des enquêtes annuelles, ce sont des enquêtes beaucoup plus espacées, permettraient d'avoir des indications plus précises. Par exemple, l'enquête sumaire en 2003 évaluait à 2,4 millions le nombre de personnes, de salariés exposés à des agents cancérogènes dans le cadre de leur travail. Mais là, on les a pas inclus. Ces 2,4 millions, ça amènerait à gonfler encore de façon importante les évaluations en matière de travail insoutenable, mais on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas ces données régulières dans l'enquête emploi. Voilà, donc si on ajoute, alors on ne peut pas sommer hein, les quatre. C'est quelque chose qui est un petit peu délicat à comprendre, enfin pas à comprendre, mais à expliquer. Si je reprends les chiffres, 3,8 de bas salaire, 2,7 de précaire, 5 millions de sous-emploi et 4,3 millions de travail insoutenable. Si je fais la somme, j'ai nettement plus du chiffre que je vous indiquais tout à l'heure, qui est 11,4. Mais le 11,4, ça tient compte des doubles comptes, c'est-à-dire ça tient compte du fait qu'il y a des gens qui sont à bas salaire et qui ont aussi un emploi précaire, il y a des gens qui ont un emploi précaire et qui sont aussi en sous-emploi, etc. Il y a même des gens qui sont à la fois dans les quatre situations. Donc il ne faut pas les compter deux ou trois, quatre ou quatre fois, ces gens-là. Donc l'enquête emploi permet justement d'éviter ces doubles comptes, ce qui permet d'avoir un indicateur. C'est pour ça qu'on parle d'indicateur cohérent, c'est-à-dire un indicateur qui évite de faire des calculs faux en ajoutant des catégories qui ne sont pas cumulables. Voilà, alors ça fait donc 11,4 millions pour le travail, pour l'emploi inadéquat, 41% de la population active. Si on ajoute les 2,6 millions de chômeurs d'été, donc 14 millions de personnes qui sont soit au chômage, soit en emploi inadéquat, c'est-à-dire donc plus de la moitié de la population active. Alors on ajoute à ça, on peut ajouter à ça des gens qui sont considérés comme inactifs au sens du BIT, c'est-à-dire qu'ils sont pas, ils n'ont pas d'emploi et ils n'en recherchent pas activement un. Mais en fait, ils sont quand même potentiellement partie de la population active dans la mesure là. Dans la mesure où ils sont partis de façon précoce, c'est-à-dire c'est par exemple les pré-retraités ou les dispensés de recherche d'emploi, ça donc l'enquête emploi permet d'évaluer à 700 000 les pré-retraités et à 300 000 les dispensés de recherche emploi, c'est un peu sous-évalué par rapport aux chiffres de la NPE. Et surtout les chômeurs découragés, ça c'est quelque chose que l'enquête emploi permet de mesurer, qui n'est jamais publié. 900 000 personnes qui ont perdu leur emploi, qui disent qu'ils voudraient travailler, mais qui ont cessé d'en rechercher un. Qui ont cessé d'en rechercher un emploi parce que, en général, parce qu'ils ne pensent pas pouvoir en retrouver un. Donc là, alors vous avez un tableau, le tableau 1, donc à la page 9, qui récapitule un peu tous les chiffres que je viens de vous donner sur 3 années, alors 2003, 2004, 2005. Mmh. Alors, toute la difficulté de ce tableau, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que vous prenez, par exemple, si vous faites la somme des chiffres, la somme des quatre catégories-là, vous n'allez pas trouver le total d'emplois inadéquats qui figure à la ligne total emploi inadéquat, pour les raisons, alors on a mis une petite note de lecture pour éviter que, pour expliquer ce problème des doubles comptes, qui fait que, c'est pas une erreur de calcul, c'est simplement qu'il y a des doubles comptes et on peut pas compter deux fois la même personne sous prétexte qu'elle a à la fois un bas salaire et un CDD. Pourquoi seulement 2003, 2004, 2005 ? Parce que ces indicateurs sont basés sur l'enquête emploi en continu qui existe depuis 2002 seulement. Alors 2002, on a eu un problème technique sur l'enquête. On n'a pas réussi à avoir les salaires. Les salaires n'ont pas été calculés par l'INSEE sur l'enquête de 2002. Donc on est obligé de se contenter de 2003, 2004, 2005. C'est donc la nouvelle enquête emploi en continu, celle dont l'INSEE dit d'ailleurs qu'elle est de mauvaise qualité. On trouve qu'elle n'est pas tellement de mauvaise qualité. Elle permet de faire plein de choses. Sur la période précédente, donc, on avait l'ancienne enquête emploi en annuelle. Et donc là, on s'est livré à l'exercice, au même exercice que je viens de décrire, sur les enquêtes emploi depuis 90 jusqu'à 2002. Ça, c'est le graphique qui est à la page 10. Avec des indicateurs un peu différents, parce qu'on n'a pas les mêmes variables, donc on n'avait pas tout à fait les mêmes variables dans l'enquête emploi dans l'ancienne enquête emploi. Donc les niveaux d'emploi inadéquat sont un peu inférieurs dans l'ancienne enquête emploi, qui ne permettait pas de mesurer aussi précisément les choses. Néanmoins, la tendance est très claire. Ce graphique est particulièrement parlant parce que vous voyez en bas la courbe en bas, là c'est le taux de chômage BIT. Et bon, en gros, il est à peu près stable aux alentours de 10%. Comme je disais, il fluctue entre 10, 12 et 8% aujourd'hui, enfin 9% aujourd'hui. Par contre, l'emploi inadéquat, lui, n'a cessé d'augmenter continuellement et quasiment indépendamment des fluctuations conjoncturelles entre 90 et 2002. Et le total, donc le total emploi inadéquat plus chômage au sens du BIT, lui aussi, a augmenté de façon quasi continue avec simplement une diminution en 2001-2002 au moment du boom des créations d'emplois du boom des créations d'emplois liées à la croissance et la réduction du temps de travail de ces deux années-là. Alors le tableau 2 vous donne l'évolution des indicateurs sur cette période, 90-2002. Donc on voit que le chômage BIT, lui, a peu augmenté, 4% sur la période 90-2002, moins que la population active, 7% pour la population active, c'est la dernière ligne. Mais par contre, tous les autres indicateurs d'emploi inadéquat ont augmenté fortement sur cette période 90-2002. Un point important, c'est que le rôle des politiques publiques dans cette affaire, aussi bien du point de vue des bas salaires que du point de vue des contrats précaires, que du point de vue du déclassement professionnel, les politiques publiques ont joué un rôle pas secondaire dans l'augmentation de ces catégories d'emplois inadéquats. À travers, je l'ai cité tout à l'heure, les exonérations de charges sociales sur le temps partiel dans les années 90, sur les bas salaires depuis 94. Aujourd'hui, les exonérations sur les bas salaires représentent, je crois, de l'ordre de 16 milliards d'euros. Plus. 22 en tout, mais je crois juste sur les bas salaires, c'est... Enfin bon. Le développement des emplois aidés et les mesures de flexibilisation du marché du travail ont contribué à l'augmentation des contrats précaires. De même, d'ailleurs, les exonérations de bas salaire ont contribué à la création d'emplois peu qualifiés au détriment des emplois qualifiés, ce qui a contribué à alimenter le phénomène de déclassement professionnel qu'on mesure. Donc, c'est important de noter que, au nom de la lutte contre le chômage, on a précarisé les contrats, on a multiplié les emplois à temps partiel, et les emplois à faible niveau de qualification. Et donc, au nom de la lutte contre le chômage, on a aggravé le sous-emploi et l'emploi inadéquat. Donc, il nous semble que c'est vraiment très important d'avoir des indicateurs variés, de ne pas se focaliser uniquement sur la question du taux de chômage, c'est une question bien sûr importante, mais si on néglige la question de sous-emploi et de l'emploi inadéquat, on est amené à poursuivre des politiques de précarisation du marché du travail qui ne font qu'aggraver finalement la question sociale et la question de l'insécurité sur le marché du travail. Et donc c'est pas étonnant finalement que l'opinion publique soit très sceptique devant la baisse réelle ou fictive des statistiques du chômage. En 2001-2002, il y avait une baisse réelle du chômage au sens du BIT. Ça n'a pas empêché Jospin de perdre les élections parce qu'il y avait quand même ce sentiment d'insécurité sociale croissante ou maintenue. Il nous semble que, aujourd'hui, le phénomène est encore pire puisque la baisse du chômage est complètement fictive et en revanche, l'emploi inadéquat continue à augmenter. Donc il est urgent, à notre sens, de mettre en place le plus vite possible un nouveau dispositif de suivi conjoncturel des évolutions du marché du travail et aussi que ces questions prennent la place qui leur revient normalement, qui devrait leur revenir dans cette campagne électorale où, pour l'instant, c'est le moins qu'on puisse dire, la question du chômage et encore moins la question de l'emploi inadéquat ont été posées à leur juste place. Voilà, je ne sais pas si Ludovic, tu veux compléter. Non ?
Peut-être juste préciser ce que c'est que le BIT.
Ce que c'est que le BIT ?
C'est bien. Oui, juste une précision, c'est un concept de BIT, hein, l'emploi inadéquat. Le BIT, c'est on ne peut plus officiel, c'est un peu comme une agence de l'ONU en quelque sorte. Hein, c'est bureau à Genève, tout ce que vous voulez. On n'a pas du tout sorti d'un chapeau un peu inventé ou je ne sais quoi. C'est vraiment c'est un concept très officiel par une organisation internationale un peu plus officielle. Voilà, pour préciser ça.
Bon, ça ne veut pas dire que les indicateurs qu'on propose là sont indiscutables et.
Oui. Après, il y a différentes façons de calculer. Voilà, moi, j'ai pas le sentiment qu'on l'ait calculé largement. Je pense qu'on a été tout à fait prudent, par exemple, sur les déclassés, hein, sur le fait de considérer que. Quelqu'un qui a le bac et qui est ouvrier, c'est quelqu'un de déclassé. Bon, je veux dire, je pense que ça nous semble assez incontestable. Vraiment, on a plutôt prêté prudent, par exemple, sur le déclassement au regard du diplôme par rapport à un emploi occupé. Hein.
Bon, supérieur au bac, on a pris supérieur au bac.
Oui, c'est ça, oui, c'est plus que le bac, oui, c'est ça. C'est plus que le bac hein, quand on est ouvrier qualifié, par exemple. Bon, c'est vraiment du déclassement. Je crois que ça me paraît difficilement contestable. Enfin, après, d'autres peuvent avoir d'autres avis, hein. Bon, de même, prendre les salariés pauvres, dire les deux tiers du SMIC, bon, il y en a qui pensent que avoir moins que le SMIC, c'est être déjà pauvre. Hein. Donc ça ferait plus de monde, quoi. Bon,
enfin, c'est tout. Est-ce que vous avez des comparaisons internationales sur ce concept ?
Ben voilà.
Alors, sur ce concept, non, c'est un concept que peu de pays, enfin, à ma connaissance, aucun pays n'a essayé de rendre opérationnel ces concepts du BIT, notamment le concept d'emploi inadéquat. Alors, en revanche, on dispose de comparaisons internationales sur d'autres questions voisines de celles qu'on aborde à travers le chômage et la précarité. Par exemple, toujours dans le cadre du Bureau international du travail, cette agence a mis en place ce qu'il appelle un indicateur de sécurité socio-économique. Donc, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, si vous voulez. L'idée de cet indicateur, c'est sur différentes dimensions de la sécurité socio-économique.
C'est la fiche numéro 3.
Ah oui, 3. Donc, notamment.
L'annexe numéro 3.
Voilà.
16-17.
Page 16-17.
Et 18.
L'idée de ces indicateurs, donc, c'est de prendre différentes dimensions, notamment évidemment le marché du travail, mais aussi la sécurité professionnelle, les conditions de travail, on en a parlé, les qualifications, le revenu, bon, je passe, et ben, justement d'avoir une idée de comment les pays se situent par rapport à cette dimension en termes de sécurité socio-économique. Alors c'est une méthodologie un peu complexe. En résumé, si vous voulez, l'idée, c'est de dire il y a des moyens qu'on se donne pour parvenir à un certain niveau de sécurité socio-économique. Donc, c'est des indicateurs d'input, de processus. Et il y a des résultats, évidemment, qu'on mesure à travers un certain nombre d'indicateurs, dont certains sont évidemment le taux de chômage, mais aussi d'autres indicateurs. Ce qui est intéressant, et puis le BIT donc, calcule à partir de ces indicateurs de moyens et ces indicateurs de résultats un indice agrégé. Alors, sur l'indice agrégé, ce qu'on a fait dans la note, on a regardé sur le champ des pays de l'OCDE, enfin, pour lesquels on a des données, c'est-à-dire les 28 sur les 30 de l'OCDE, comment situer la France. Sur l'indice agrégé, la France se situe plutôt à une place, on va dire, relativement honorable. Elle arrive à la 7e place. Donc on peut dire c'est un résultat plutôt satisfaisant. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ensuite comment se décompose ce résultat, en quelque sorte. Et là, on observe que cette 7e place, elle tient uniquement au fait que sur le papier, en quelque sorte, c'est-à-dire à travers des règles, des institutions, des engagements pris dans les conventions de l'OIT, justement, de l'Organisation internationale du travail, la France se situe très bien, elle arrive même en 5e position. En revanche, et c'est le tableau... non, j'ai pas donné de tableau là-dessus. Pardon. Et en revanche, quand on considère les résultats concrets, c'est-à-dire finalement ce qui importe pour les salariés en termes de sécurité socio-économique, là, la France régresse à la 17e place. C'est-à-dire, elle se situe vraiment parmi les pays de l'OCDE, à peu près au même niveau qu'au Japon, les pays du sud de l'Europe, devant bon, la Hongrie, la Slovaquie, la Corée, le Mexique, la Turquie. Donc vraiment tout en bas du tableau. Si on se limitait vraiment aux pays les plus développés, la France est tout à fait en bas du tableau. Et pour compléter ce petit élément de comparaison internationale, on peut regarder justement qu'est-ce qui, en matière de résultats, pèse le plus sur ce mauvais score. Il y a deux choses qui sont importantes. La France a un très mauvais score en termes de représentation. Sécurité de la représentation. Cet indicateur, il incorpore deux choses. La représentation syndicale, donc c'est évidemment lié à la faiblesse du taux de syndicalisation et à la faiblesse des relations sociales en France, mais aussi des indicateurs de liberté civique. Donc là, la France, elle se place vraiment tout à fait en bas de tableau, 25e sur 28. Et pour la question qui nous intéresse plus dans le cadre du collectif, en tout cas qui est plus celle du collectif à travers la situation du marché du travail, là on a aussi des résultats qui placent la France en 20e position. C'est-à-dire vraiment un résultat encore plus dégradé que sur l'ensemble des résultats pris de façon agrégée. Donc ça, c'est un premier élément de comparaison internationale. Et alors, on a d'autres enquêtes qui sont régulièrement publiées par la Fondation, c'est la fiche numéro 4. Donc, c'est un travail qui est réalisé par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie de travail qui se situe à Dublin et qui, tous les 5 ans, reprend des enquêtes sur les conditions de travail qui sont réalisées dans l'ensemble des pays de l'Union européenne et même aujourd'hui sur la dernière enquête, en tout cas, sur les nouveaux pays membres. Donc là, on a repris juste quelques résultats qui nous paraissent assez significatifs, encore une fois, par rapport aux questions qu'on se pose. Premier graphique que vous avez, c'est la proportion de salariés qui déclarent en 2005 être insatisfaits ou très insatisfaits de leurs conditions de travail. Alors, c'est pas évidemment la notion d'emploi inadéquate, mais c'est un degré d'insatisfaction par rapport aux conditions de travail. Et là, vous voyez que par rapport aux pays de l'Union européenne avant l'entrée des nouveaux pays membres, la France se situe tout à fait en bas. Elle est à peu près à la 12e ou 13e position. En fait, avec un degré de satisfaction qui la rapproche davantage des nouveaux pays membres que des anciens pays membres. Autre indicateur sur laquelle la France n'est pas non plus très bien située, c'est le deuxième graphique, c'est la proportion de salariés qui déclarent en 2005 être bien payés pour le travail qu'ils font. Donc en moyenne, au niveau de l'Union européenne, à 15, c'est un peu plus de 45%, et c'est de l'ordre de 35% en France. Là encore, la France se situe parmi les pays où il y a la plus grande insatisfaction par rapport à cette question. Et dernier indicateur qu'on a repris, qu'on a illustré, c'est une mine d'informations, donc il n'était pas question de faire un dossier là-dessus, mais qui nous semble éclairer aussi la question des conditions de travail notamment, et de la pénibilité au travail, ou tout un ensemble de choses qui contribuent à nourrir la montée de l'emploi inadéquat ou insoutenable, c'est la proportion de salariés qui déclare en 2005 pouvoir faire le même travail à 60 ans. Et là, on voit que la France vraiment se situe encore plus dans le bas du tableau. En moyenne, au niveau de l'Union européenne à 15, c'est plus de 60%. Et là, on tombe à moins de 50% en France, là encore, juste devant le Portugal et la Grèce. On peut interpréter cet indicateur comme l'idée de conditions de travail vraiment difficiles. Insoutenable à long terme, c'est-à-dire notamment au-delà d'un certain âge. Bon, on sait que depuis quelques années, la proportion de gens qui sont déclarés en invalidité a fortement augmenté. Bon, c'est aussi un indice de ces difficultés dans les conditions de travail. Donc voilà un petit peu ce dont on dispose, en tout cas ce qu'on vous propose dans cette note sur les éléments de comparaison internationale. Et qui, encore une fois, ne sont pas typiquement, enfin, qui ne reprennent pas les concepts qu'on a essayé de quantifier dans la note de sous-emploi et d'emploi inadéquat, parce que on ne dispose pas des informations là-dessus.
En gros, ça veut dire que si on pouvait faire le même calcul qu'on a fait pour la France dans les autres pays, on trouverait probablement des résultats un peu meilleurs.
Oui, c'est peut-être ce qu'on peut faire.
Par contre, la tendance sera probablement la même. Enfin, bon, ça,
donc, si vous deviez proposer, mettons, trois indicateurs au lieu du baromètre officiel actuel, en fait, proposer de deux avec le nombre de demandeurs d'emploi et le taux, trois autres, ce serait quoi? Un indicateur de temps partiel, un indicateur de
bas salaire, contrat précaire, emploi, sous-emploi et travail insoutenable. On propose quatre indicateurs l'ensemble hein, qu'on appelle emploi inadéquat.
Et sur le concept d'emploi inadéquat, est-ce que vous ne voyez pas une certaine difficulté à... Enfin, comment vous pensez que ça peut être reçu par un certain nombre de personnes, de salariés qui travaillent, qui financent le système de protection sociale et qui souvent sur le terrain disent mais c'est pas juste, il y en a qui font la fine bouche, on n'a pas à attendre que l'emploi soit adéquat pour travailler. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Je sais pas, c'est l'évolution. Enfin, bon, je vois pas de raison que dans une société où il y a de la croissance économique, où il y a de la productivité augmente tous les ans. Normalement, si une partie de cette productivité qui augmente sert à donner de meilleures conditions de travail, entre autres, il n'y a pas de raison que cet emploi inadéquat augmente. Et là, il ne fait que augmenter depuis 15 ans. Dans un pays de plus en plus riche, je ne vois pas pourquoi on aurait une situation de l'emploi qui se dégraderait tout le temps.
Vous avez aussi la réponse dans le tableau. Il y a quand même, par rapport à votre remarque, il y a quand même plus de 11 millions de personnes qui sont en situation d'emploi inadéquat, donc ils n'attendent pas d'avoir un emploi adéquat pour travailler. Ils travaillent. Simplement, on leur propose des conditions de travail, des conditions de rémunération qui sont tout à fait, qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas adéquates pour différentes raisons.
Ils sont difficiles à accepter et qui sont pourtant acceptés.
Oui. Donc je pense que. Voilà, c'est un élément de réponse, il me semble. Non, les gens, ils veulent travailler. De toute façon, ils sont dans l'obligation de travailler dans la plupart des cas pour avoir accès à un minimum de ressources. Que ce soit les chômeurs, évidemment, qui souhaitent travailler, mais aussi tous les autres qui accèdent à des bouts d'emploi. Donc c'est bien cette question-là qu'il faut aujourd'hui poser, à travers une batterie d'indicateurs qui est celle qu'on propose aujourd'hui, pour justement dire on ne peut pas prétendre résoudre, c'est ce qu'a dit Thomas, et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut, c'est un des messages forts, je pense, on ne peut pas prétendre résoudre la question du chômage en dégradant par ailleurs la situation de l'ensemble, quasiment, ou d'une très grande partie des salariés. dire, il faut sortir de ce schéma où on lutterait contre le chômage par l'emploi, en quelque sorte, à tout prix, l'emploi n'ayant plus d'ailleurs de contenu ni même de signification dans ce contexte-là. C'est juste, ça deviendrait une étiquette vide, en quelque sorte. Donc, pour redonner du contenu à ce qu'est la notion d'emploi et d'emploi salarié, eh bien, il faut avoir des indicateurs qui permettent d'apprécier sa dégradation dans le temps, et c'est ce qu'on propose.
En tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, la question qui est posée quand même à tous ceux qui vont nous gouverner dans le futur, s'ils avaient en leur possession effectivement cette batterie permettant d'avoir de façon plus fine une perception réelle de ce qu'est aujourd'hui et l'emploi et la nature des emplois, la politique pourrait être tout autrement. Comme l'exonération des charges aujourd'hui qui est de 16, entre 16 et 22 milliards, pourrait servir effectivement à autre chose. Donc je veux dire, aujourd'hui, devoir refuser systématiquement d'avoir des indicateurs plus précis, c'est un non-sens politique. Ou alors ça veut dire clairement, on continue à faire le même type de politique dans un schéma idéologique prédéfini et on ne veut pas en sortir. Et ça, c'est aussi assez inacceptable. En tout cas, nous, ce qu'on voit à la NPE, c'est que tous les jours, effectivement, ce qu'on côtoie, c'est bien des gens qui sont en déshérence, qui sont dans une misère psychologique et sociale. Et ça, ça ne se mesure pas, mais ça se vit tous les jours. Et aujourd'hui, rester effectivement, avoir une vision de dire que ça n'existe pas ou ça ne peut pas être précisé, c'est effectivement à peu près, à mon avis, aussi incohérent que de laisser la société telle qu'elle est se dégrader dans le cadre effectivement d'une insécurité qui ne va que se renforcer si on n'agit pas concrètement. Donc l'objectif de ces indicateurs, c'est bien ça aussi.
Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que la qualification des salariés, qu'elle soit obtenue par la formation ou par l'expérience, est véritablement une richesse. Et que son sous-emploi, c'est vraiment un suicide économique. Suicide économique qui se paye d'ailleurs sur la santé des salariés. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une vision de court terme que d'obliger des gens à prendre un emploi qui ne leur conviendra pas, qui les rendra malades, et qui aggravera de toute façon leur situation de précarité à terme.
Aujourd'hui, il faut sortir aussi de quelque chose qui, à mon avis, est un bon sens, c'est la maladie du chiffre. La cantophrénie aujourd'hui fait qu'on ne signifie plus les choses que par les chiffres, tout en ne regardant pas effectivement socialement ce qui se passe. Et ça, c'est effectivement assez grave. C'est effectivement plus facile de commenter un chiffre, de ne pas aller en profondeur sur des éléments.
Ah, on alimente la cantophrénie, là.
On l'alimente, mais on l'alimente dans sa diversité. Et c'est dans la diversité qu'on a effectivement une vision claire. Ce n'est pas en se fétichisant sur certains chiffres qu'on arrivera effectivement à... Il faut regarder aussi ce qui se passe, et il faut des enquêtes plus qualitatives, etc. Ça aussi, ça fait partie des données que nous, on souhaite effectivement mettre sur la place publique.
Je ne vois pas où est compté le temps partiel subi, parce que vous nous avez expliqué dans la catégorie 3 que l'INSEE comptait de façon très restrictive uniquement ceux qui sont à temps partiel. Et ensuite, enfin, moi, de ce que j'ai noté, les 5 millions de personnes, j'ai noté ceux qui ont un emploi mais sont inscrits à la NPE et ceux qui sont déclassés. Et les temps partiels subis.
Ils sont dans les 3 millions.
Dans les 3 millions qui ont un emploi mais inscrits à la NPE.
En fait, il n'y a pas que les inscrits à la NPE.
Alors. Sur le temps partiel subi, on a fait le choix de ne pas isoler cet indicateur de temps partiel subi.
D'accord.
Parce que la grande majorité des gens en temps partiel subi sont dans les bas salaires. Mmh. Très grande majorité sont dans les bas salaires. Mais il y a un certain nombre de gens qui ont des bas salaires et qui ne disent pas dans l'enquête emploi vouloir travailler davantage. Soit parce que ce sont des femmes qui sont à temps partiel pour s'occuper de leurs enfants. Et donc, elles acceptent, entre guillemets, des bas salaires parce qu'elles ont des charges familiales par ailleurs et qu'elles n'ont pas trop le choix. Soit parce que ce sont des personnes qui savent qu'elles n'ont aucune chance de passer à temps plein et donc ont abandonné, on pourrait dire, c'est des chômeurs partiels découragés. C'est des gens qui ont abandonné l'espoir de passer à temps plein. Donc, ils ne disent même plus dans l'enquête qu'ils veulent travailler davantage.
Soit elles font travailler ou non.
Alors pour ça, ça, bien entendu, ça existe, hein, le travail au noir, mais ça, et probablement ça se développe, mais ça, nos indicateurs, enfin les indicateurs statistiques permettent pas de le retracer. Voilà, donc on a choisi de ne pas isoler cette catégorie de temps partiel subi parce qu'elle nous semblait restrictive par rapport à la catégorie de bas salaire qui nous semblait plus pertinente d'un point de vue analytique.
Au vu des propositions des différents candidats à la présidentielle, est-ce qu'il vous semble que certaines de propositions vont justement vers une sorte de refondation de la politique de l'emploi en France ?
Est-ce que sérieusement, vous êtes au courant de ce que disent tous les candidats sur effectivement l'emploi ? Est-ce que vous avez entendu sérieusement, à part un ou deux qui ont fait des effets d'annonce, des choses intéressantes dites là-dessus ? Pour l'instant, le débat ne s'est pas porté là-dessus. Moi, c'est ce que je constate. À part, effectivement, Sarkozy qui dit qu'il faut fusionner la PE, l'INEDIC, en disant que ça va améliorer les choses et surtout que ça va permettre effectivement de dégonfler les déficits publics, qui est une formule effectivement à côté, parce que c'est pas en changeant une institution qu'on diminue le chômage, hein, sinon ça se saurait, mais ça fait un peu poudre aux yeux et communication, effectivement zapping. À part ça, et à part le Parti Socialiste qui dit qu'il faut un service de l'emploi unifié, dont on ne sait pas le contenu encore aujourd'hui, voilà ce qu'on en est. Alors nous, le SNUNPE, on a envoyé un questionnaire. Je vous remettrai un exemplaire, puisque j'ai amené aujourd'hui 20 questions. Pour l'instant, nous allons être reçus par le Parti Socialiste. Nous avons eu donc la LCR qui nous a répondu. Et dans notre journal interne, bien sûr, nous allons communiquer ces réponses. Mais on a envoyé ce questionnaire posant toutes ces questions. Donc on attend des réponses, mais visiblement, ça ne vient pas. Donc ça n'intéresse pas forcément beaucoup.
Sauf qu'il y a aussi les propositions qui peuvent être faites en matière d'éducation, qui peuvent répondre aussi aux préoccupations sur, par exemple, le sous-emploi et le fait que des personnes qui ont un bac plus quelque chose occupent un emploi d'ouvrier. Est-ce que là, dans ces propositions-là, il y a quelque chose qui vous semble intéressant ?
En matière d'éducation ?
Oui. Qui est présenté comme la priorité.
Parce que vous voyez, plus on augmente, c'est très bien, c'est très bien d'investir dans les universités, d'investir dans l'éducation. Pas mal de candidats disent qu'il faut renforcer l'enseignement supérieur, etc. C'est très bien. Sauf que si ça aboutit à renforcer encore le déclassement parce que la qualité des emplois ne suit pas, c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, ça ne sert absolument à rien. Ça va au contraire renforcer, augmenter le nombre de diplômés si la qualification des emplois n'augmente pas. Ça va aggraver le problème, ça va aggraver entre guillemets le problème du déclassement.
En tout cas, du est-ce que vous n'essayez pas de botter en touche quand même? Parce que sur les allègements de cotisations sociales, Sarkozy et Ségolène Royal disent peut-être pas tout à fait la même chose. Ils ont tous les deux un discours sur la sécurité sociale professionnelle. Ils disent peut-être pas tout à fait la même chose. Est-ce que c'est pas un peu facile aussi de dire, en gros, c'est blanc bonnet blanc, on les entend pas sur le sujet, et puis voilà quoi.
J'ai pas dit ça. Qu'on se méprenne pas.
Vous avez parlé de la fusion UNEDIC-NPE
du service public de l'emploi. Ce que je dis, c'est que c'est pas suffisamment explicite aujourd'hui et que c'est pas au cœur du débat. Et ça me semble effectivement inquiétant puisque c'est soi-disant le problème numéro un. Donc j'aimerais. Mais ça, c'est un souhait citoyen, que ça soit au cœur du débat.
Mais qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils disent aujourd'hui déjà ? Parce qu'ils disent des choses.
De toute façon, ils survolent le sujet.
Ils disent pas rien.
Notre fonction, c'est pas de dire tel candidat dit des choses intéressantes, tel autre ne dit pas des choses intéressantes. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que cette question-là prenne davantage d'importance dans le débat, que les propositions soient plus précises, plus concrètes, et que notamment déjà que les candidats s'engagent sur la question des indicateurs, parce que je pense que ça c'est une question politique importante. Tant qu'on laisse toutes ces choses-là sous le tapis, hein, du point de vue statistique, du point de vue de la communication gouvernementale, ça veut dire qu'on ne met pas au premier plan les objectifs. On sait très bien que les statistiques et les politiques, ça a un lien très étroit. Hein. Et si on veut faire des politiques contre la précarité, contre le sous-emploi et l'emploi inadéquat, il faut des indicateurs qui vont avec. Si on ne met pas en place des indicateurs, ça veut dire qu'on n'a pas l'intention de mener des politiques. Donc là, je crois que c'est vraiment... déjà, ce serait un signe fort. Ce serait un signe fort si des candidats s'engageaient sur cette question des indicateurs et reconnaissaient que la situation actuelle est intenable.
Vous demandez aujourd'hui qu'on refonde les indicateurs.
Absolument, oui, c'est le sens de cette note d'ailleurs.
C'est histoire d'avoir une lisibilité de la situation. Plus les candidats auront une véritable lisibilité de ce qu'on sont les choses aujourd'hui, c'est dans ce sens-là qu'on peut agir. On parle souvent des métiers en tension, par exemple. On a dénigré très longtemps les travaux manuels en France. Pourquoi ne pas avoir une politique de valorisation de ces métiers-là au lieu de toujours amener ces métiers en tension dans la balance en disant les chômeurs ne veulent pas travailler, il y a un volet de 300 000 métiers en tension, par exemple. Mais après, c'est d'avoir des chiffres objectifs, une lisibilité de la situation, et c'est à partir de là qu'ils vont pouvoir agir. Ça semble cohérent. Aussi.
Une question ?
On voit bien les critères de l'emploi inadéquat, ils sont bien expliqués dans la note. Alors la question est peut-être piégeuse, mais c'est quoi l'emploi adéquat ? Aujourd'hui, il y a une enquête qui dit que les chefs d'entreprise, 47% disent qu'ils ont des difficultés de recrutement. Vous avez des demandeurs d'emploi, vous avec eux, c'est quoi un emploi adéquat ? C'est le niveau de salaire, c'est le temps de travail, un 20 heures de travail, c'est pas adéquat. C'est quoi en positif ? Qu'est-ce qui peut faire dire qu'un emploi est adéquat ?
C'est l'inverse de l'emploi inadéquat. C'est un emploi qui n'est pas à bas salaire, qui est en CDI.
C'est SMIC, c'est temps
voilà. complet, c'est voilà. adéquat. Un CDI est temps complet avec un salaire qui permet de vivre.
Non, même pas. Temps complet, on ne met pas explicitement.
Enfin, pas nécessairement temps complet, non, pardon. Pas nécessairement temps complet. Pas à bas salaire.
C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à temps complet, il sera forcément à bas salaire.
Non. Si vous êtes au SMIC horaire à temps partiel, bien sûr, vous êtes à bas salaire, ça c'est sûr. Mais si vous êtes cadre à temps partiel, vous n'êtes pas à bas salaire. Vous avez un salaire qui va dépasser, le seuil de 800 euros qu'on a dans la. Donc non, temps partiel, pas nécessairement, n'est pas nécessairement condamnable si le salaire permet de vivre. Donc là, c'est pour ça qu'on n'a pas trop insisté sur la question du temps partiel et du temps partiel subi ou du temps partiel choisi, parce que ce qui nous semble important, c'est pas tant la question du temps partiel ou du temps plein que la question du salaire.
C'est un indicateur de travailleurs pauvres.
De salaire ?
Alors, travailleurs pauvres, ça prend en compte les ressources du ménage, de la famille, etc. C'est un autre concept. Hein. C'est un autre concept. Du point de vue statistique.
Adéquate pour répondre, je ne sais pas, je fais peut-être un peu la provocation, mais adéquate, ça veut dire effectivement un salaire permettant de vivre dans des conditions dignes de ce nom.
Et qui préserve la santé.
Et qui préserve la santé, c'est-à-dire pas subir effectivement des 3-8 à tire-larigot, etc. Parce que c'est pas forcément bon pour la santé, et tout le monde le dit. Et tout le monde le sait,
les enquêtes. C'est le salaire, le curseur principal
En lien avec la formation, en corrélation avec
la formation aussi.
Non, mais il y a 4 critères, enfin, on a vraiment les 4 critères dans la note, c'est le salaire. Le contrat, l'adéquation avec la qualification et les conditions de travail. Donc, je crois que c'est ça qui fait là, c'est cette batterie d'indicateurs.
C'est 4 axes d'une politique de l'emploi.
Ça devrait être c'est les 4 dimensions principales pour nous de la qualité de l'emploi.
Vous êtes pour une redéfinition de l'OVE ?
De l'eau ?
L'offre valable.
Permet
éventuellement de
sanctionner
dans.
Alors là-dessus, il y a pas mal de polémiques. Donc, je pense que c'est pas stabilisé au niveau de la définition. Parce qu'en fonction de là où on se trouve, effectivement, la définition est contradictoire. Donc aujourd'hui, ça fait débat. Donc c'est pour ça que je ne donnerai pas une définition précise.
Ce qu'on peut dire, c'est que depuis sa première apparition en 1937, si je me souviens bien, elle n'a pas cessé de se restreindre, de se resserrer, de mettre des obligations supplémentaires pour les chômeurs. C'est vraiment... j'ai pris en tête la chronologie, mais en fait, c'est successivement...
Moi, je dirais que l'offre, si j'avais une proposition, mais c'est en mon nom, hein, puisqu'on n'en a pas discuté, si j'avais une proposition à faire sur l'offre valable d'emploi, ce serait une offre, effectivement, qui prendrait en compte les éléments qu'a donné Thomas tout à l'heure, c'est-à-dire, effectivement, avec un salaire décent, etc. etc. On ne peut pas accepter... une offre d'emploi qui ne soit pas au juste prix. Le juste prix, ça tient compte à la fois d'un salaire décent, des conditions de travail effectivement qui ne sont pas dégradées, d'un temps de travail choisi effectivement, et quatre éléments effectifs qu'a donné Thomas tout à l'heure.
Il y avait une question, une remarque de Marc Moreau d'Assé.
Sur l'offre valable d'emploi, c'est sûr qu'il y a besoin de repréciser les choses. Il y a une circulaire qui avait lancé le ministère, comme quoi au bout d'un an de chômage, on devait en rabattre sur les prétentions, notamment sur le temps de travail, le temps de transport, le salaire. Ça, c'est inacceptable. On ne voit pas pour quelle raison, au bout d'un an de chômage, comme ça, brutalement, il faudrait en rabattre sur les prétentions. Donc, il y a besoin de garantir, de renforcer les protections qui pourraient venir du côté de l'offre valable d'emploi. Et sur l'aspect emploi convenable, on peut appeler l'emploi convenable, quand même si 47% des employeurs, si j'ai bien compris, déclarent qu'ils seraient prêts à embaucher, alors je trouve que ça fait beaucoup. Ça m'intéresserait de savoir qui sont ces employeurs qui veulent embaucher, qui ne trouvent pas à embaucher. Mais en partant du principe qu'ils le disent, après, on a donc déjà des indications sur ce qu'est l'emploi convenable vis-à-vis des gens. Et si eux, les employeurs, ont du mal à embaucher, c'est que l'offre n'est pas satisfaisante. Et logiquement, s'ils étaient de vrais libéraux, ils devraient sans doute la corriger, l'adapter à la demande pour que tout ça corresponde. Mais il faudrait inverser la question. Si le problème existe, il est repéré, il faut qu'il bouge.
Par rapport à la question sur les présidentielles et les propositions des différents candidats, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas en définitive un décalage entre ce qui est mis sur la place publique comme vraie, comme confrontation actuelle, et les dossiers réels des différents protagonistes. Parce que si on prend Sarkozy, par exemple, toute sa politique est très très largement argumentée et étudiée depuis plusieurs années. Si on prend le rapport CAM dessus, KEKUC, Kramatz, la thématique climatique de la sécurité professionnelle qui est maintenant reprise par tout le monde mais qui ne fait pas l'objet d'une discussion réelle dans la campagne réelle, ou bien si on prend le ralliement de Borloo là, récent, avec l'engagement de dire on va diminuer le chômage à moins de 5%, on va faire une sécurité économique sur les licenciements économiques, et puis il y a 700 000 CDE, je crois qu'on y a des contrats qui ont été signés, plus les contrats Borloo d'emploi.
Il y a 300 000 CDE.
Plusieurs centaines de milliers. et les contrats Borloo. Il y a une politique réelle qui est en gestation derrière la confrontation présidentielle, mais qui n'apparaît pas sur la scène publique.
Pas suffisamment, en tout cas. Le contrat unique de Sarkozy, bien évidemment, on l'entend. Bon, on entend aussi des différences avec le PS. Sauf que ce qui serait intéressant, c'est que ces débats... Je ne veux pas botter en touche et dire bonnet blanc, blanc bonnet. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit, effectivement, ces sujets-là ne sont pas suffisamment débattus, ne sont pas suffisamment explicités en termes pédagogiques et tout. Quand on parle de flexicurité et quand on parle de sécurité professionnelle, on ne parle pas de la même chose. Quand on se réfère à la CGT, ou quand on se réfère, qui est à l'origine du concept, et qu'on se réfère au patronat, on ne parle pas de la même chose. Donc ce sont des concepts qui ont effectivement des visions différentes. Et donc il faudrait être à la fois pédagogique, mettre les cartes sur la table, et que les citoyens puissent, à travers ces éléments, en débattre. Et je veux dire, les indicateurs font tout à fait partie de ce débat, à mon avis. C'est ça que j'ai pris le temps. Donc, la parole.
Sur la grève à la NPE, vous avez déjà des taux de participation
Alors, c'est en cours, donc je ne sais pas, tu as pas vu. Non, on n'a pas, si vous voulez, c'est un peu trop tôt. Donc ouais, là, on va rejoindre effectivement nos collègues.
Vous pensez
collègues.
Quoi Vous prévisez
que c'est
quoi
important, très important, et grève historique, vraisemblablement. Historique, pourquoi? Parce que depuis une quinzaine d'années, il n'y a pas eu une unité syndicale aussi forte. Donc ça, c'est très important. Et l'unité n'est pas de façade, c'est parce que le danger est effectivement extrêmement grand. Puisque le danger aujourd'hui, c'est la mise en place d'un décret qui modifie de façon substantielle le code du travail et donc le statut d'établissement. Et dans ce décret est inscrit la création de filiales donc commerciales de droit privé. Cette comparaison, nous la faisons très rapidement entre ce qui s'est passé à France Télécom et donc à La Poste, où à travers la création de filiales privées, c'est bien effectivement la mise en miettes effectivement du service public qui est derrière tout ça.
Mais là, Monsieur Charpie, certes il n'est pas mauvais, mais il a eu l'air de dire que fallait pas vous en fassiez, parce que de toute façon, certes, il y avait le décret qui est sorti d'ailleurs, c'est vrai.
Oui. Demande d'abrogation.
Oui, prévoyant la possibilité en effet de créer des filiales, mais que lui, de toute façon, il ne créerait pas de filiales de droit privé, parce qu'il ne veut surtout pas concurrencer le privé, justement. Il ne veut pas gérer le privé.
Sauf qu'il y a déjà en préparation des organisations qui préfigurent ce que ça risque d'être, et que les premières filiales de droit privé risquent de pas être forcément les services aux entreprises tels que ça a été annoncé, mais plutôt les services internes. service juridique,
ça aussi, ça peut
les services de formation, les services de formation, les différents services administratifs. Et qu'on voit à l'heure actuelle des plateformes interrégionales se former qui pourront très bien passer
qui préfigure,
au secteur privé rapidement.
Mais en même temps, M. Charpie, qui doit avoir le nez qui se rallonge très rapidement. Ce monsieur fait de la fausse sans le savoir, puisque quand il dit effectivement qu'il n'a pas dans ses tablettes de filiales en prévision, il nous cite quand même AFPE.fr. Vous savez que le site AFPE.fr est le plus grand site d'offres d'emploi de France entière, un site comme très important, et que bon, il le cite en tant que tel. Il cite aussi, donc on pourrait tout à fait le transférer à une filiale qui vendrait ce service, ça c'est tout à fait possible et très rapidement. Donc je veux dire, c'est certainement pour essayer de calmer le jeu par rapport à la montée en puissance effectivement de personnel que ce directeur général, qui d'ailleurs fait partie, bon là je suis obligé de le dire aussi parce qu'il y en a marre, fait partie des gens qui sont experts de Sarkozy dans la campagne, donc qui sont jugés partis, qui prônent effectivement la fusion, mais qui en même temps sont à la tête de la NPE. Donc c'est vraiment la confusion des genres totale. Et à mon avis, ce directeur général devrait tirer les conséquences de cette affaire par rapport à la place qu'il occupe aujourd'hui.
Mais est-ce que vous, parce que l'un des arguments pour la filialisation, c'était aussi de dire, je me souviens, sur le recrutement par habileté, il n'y a pas de raison de ne pas faire payer aux entreprises les services qu'on leur offre en plus du service classique, qui est d'abord pour nous de trouver un emploi au chômeur. Donc cette idée de faire payer plus les entreprises qui ont droit à des services un peu plus élaborés.
Mais c'est le contraire de ce qu'est un service public. Un service public est basé sur la gratuité, sur l'égalité de traitement, quels que soient ses usagers.
Et sur l'ouverture à tous.
Et donc à partir de ce moment, si vous sciez cette branche, vous n'êtes plus dans un service public, vous êtes dans autre chose. Et nous, on tient effectivement à rester un service public.
Donc, y compris vis-à-vis des entreprises.
Vis-à-vis des entreprises, bien évidemment.
Une dépendance économique vis-à-vis des entreprises n'est peut-être pas forcément souhaitable pour maintenir ou essayer de maintenir une égalité dans la recherche.
De toute façon, le bilan de la privatisation, c'est plus que mitigé. On l'a pas maintenant, mais on l'a
du placement,
des expériences.
Oui, placement.
Ah, sur les cabinets de placement privés. Oui. Vous savez que je ne sais pas si il y a des questions là-dessus. En tout cas, il y a une chose aussi, la grève, elle est faite aussi sur les conditions de travail. Il faut aussi qu'on vous dise. Aujourd'hui, on annonce effectivement une réception des demandeurs d'emploi tous les mois à travers ce qu'on appelle le suivi mensuel personnalisé, qui d'ailleurs, entre autres, dans la note 3, permettait de montrer qu'effectivement, avec la pression qu'on exerçait, il y avait des chômeurs qui s'évaporaient par rapport à cette pression exercée sur ces demandeurs d'emploi. Donc c'est toujours en liaison avec le thème. Les conditions de travail sont telles qu'aujourd'hui, c'est l'explosion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne sur quatre à la NPE, 25% sont précaires. Et que vraisemblablement, les solutions que cherche notre directeur général, c'est d'accroître la précarité pour répondre effectivement à ces difficultés de conditions de travail. Donc c'est pas tellement glorieux pour un établissement public d'aller aussi loin dans la précarité et dans la précarisation.
C'est-à-dire que c'est des CDD ou...
CDD, temporaire.
Et pourquoi ? Enfin, l'argument invoqué, si c'était une sur quatre hein.
Eh bien, l'argument évoqué, c'est que comme il n'y a pas stabilisation, effectivement, de certains marchés, puisqu'aujourd'hui, on a des marchés qui sont liés, par exemple, on a un pourcentage de notre budget, à hauteur de 25%, c'est l'UNEDIC.
Et l'UNEDIC, notamment avec les CRT, c'est ça ?
Voilà, notamment avec les CRT. On a aussi une partie de ces budgets qui sont liés au suivi des chômeurs au niveau du RMI. Hein. Et ça, c'est les collectivités territoriales. Quand vous dépendez, et quand il y a plusieurs sources de financement, eh ben, vous pouvez à tout moment, effectivement, à un moment donné, avoir, en fonction d'un bilan, avoir le financement qui est coupé. Et donc, dans ces cas-là, eh ben, on préconise effectivement un volant important de précaires pour assurer le tampon. En même temps, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que, je ne sais pas si je suis très clair, hein, donc, mais je vais vous dire aussi que le statut du personnel des agents de la NPE qui est passé donc, en 2005 qui a modifié les conditions, c'est un peu la convention collective des gens du PE, si vous voulez, a permis, avant c'était limité le nombre de CDD par exemple, hein, par cadre d'emploi, aujourd'hui a permis une explosion totale et il n'y a plus de limite en tant que tel. Ça c'est un grave problème. En tout cas, on ne peut pas stabiliser un service public si on embauche une personne sur quatre sur un statut précaire.
Mais alors, vous dites actuellement, il y aurait donc, si c'est 22 000 agents à NPE.
27 000.
27 000, oui. Et là-dessus, vous rajoutez un volant de combien de CDD?
3 000.
Non,
c'est 3 000 CDD.
Dans les 28 terres,
CDD.
Dont 3 000 CDD.
Dont 3 000 CDD. Ce qui fait 11%, je crois, c'est ça?
Ah, d'accord.
3000 CDD sur 27 000.
Donc, oui, ça va faire.
Oui,
3000 CDD. 3000 CDD fin 2005. J'en suis sûr, j'ai les tableaux, donc il n'y a aucun souci. 3000 CDD, sans compter effectivement les CES, les CAE, les temporaires. Et il faut savoir que pour certaines de ces personnes, cette précarité, pour les CDD en tout cas, est relativement longue, puisqu'elle peut durer aujourd'hui jusqu'à 6 ans. On peut conclure des contrats jusqu'à...
Ah, parce qu'en fait, vous êtes assimilé fonction publique. Vous êtes sous le statut...
Nous ne sommes pas fonctionnaires.
Oui, mais ça c'est la règle pour la fonction publique. Oui. Et ça s'applique à vous aussi. Oui.
On est hybride, c'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas les systèmes de retraite des fonctionnaires. Donc, on cotise exactement comme le privé. Mais on a... Mais
sur les règles d'emploi, vous avez... Vous avez des contractuels.
Nous sommes des contractuels, donc des agents statutaires qui sont...
Ans
qui sont sur le décret de 86, agence statutaire de l'État.
Il y a des gens à la NPE qui sont très précaires
parce
qu'ils font des contrats
de 6 mois. Oui, c'est temporaire. Excusez-moi, avant de partir, est-ce que je peux vous mettre à la fois les questionnaires, les photocopies, je n'aurais pas l'air. C'est lourd. En tout cas, il y a à 13h30, on a une manifestation qui démarre en face de la gare de
Place
Estienne-d'Or, donc je vous attends si. Saint-Lazare, excusez-moi. Et je me permets aussi, puisque vous êtes peut-être. Excusez-moi, deux petites minutes, mais arrêtez de faire de la publicité aussi. Pour un livre qui est très intéressant, qui est édité par les éditions.
Après la lune,
excusez-moi. Et ce livre est intéressant parce qu'il mêle à la fois une analyse des deux côtés du guichet, c'est-à-dire les agents à NPE tels qu'ils voient la NPE, leurs conditions de travail, etc., les chômeurs tels qu'ils le voient, plus des analyses. Et il y a dedans, à l'intérieur de ce livre, il y a aussi les commentaires du rôle d'ACDC, etc. Donc essayez de peut-être l'inviter, c'est vraiment quelqu'un de très bien et des choses très intéressantes et en même temps des polars très intéressants aussi.
Merci.